Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bonsoir à tous. Le 20 janvier prochain, c'est donc un climato-sceptique qui va faire son entrée à la Maison-Blanche. Donald Trump tient depuis des années, et particulièrement ces derniers mois, des propos contre le sens de l'histoire pour le futur président des États-Unis. Le changement climatique est une connerie, je le cite, un canular, un concept inventé par les Chinois pour empêcher l'industrie américaine d'être compétitive. Conséquence, Donald Trump s'est engagé pendant sa campagne à annuler l'accord de Paris, accord pourtant ratifié par les États-Unis et une centaine d'autres États, accord entré en vigueur quelques jours avant son élection le 4 novembre, à la veille de l'ouverture de la COP22 au Maroc, une conférence dont l'enjeu est de taille, concrétiser les engagements pris à Paris l'an dernier. L'élection de Donald Trump est-elle un tsunami climatique, comme on l'a entendu ? Pas vraiment, voulait croire il y a quelques jours la ministre française de l'Environnement, Ségolène Royal, c'était chez nos confrères de RTL.
Donald Trump a défendu pendant cette campagne des avis absolument invraisemblables. Il a remis en cause les effets du dérèglement climatique, du réchauffement climatique. Il ne peut pas, contrairement à ce qu'il a dit, dénoncer l'accord de Paris. Je ne suis pas inquiète parce qu'il va falloir redoubler de combativité pour gagner la bataille contre le climat.
Donald Trump peut-il saboter l'accord de Paris ? C'est le débat de ce soir, bienvenue. Pour en parler, trois invités. Michel Colombier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur de l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales, l'IDRI. Henry Lenz, je vais essayer de le prononcer une fois bien, je ne vous garantis pas pour la suite, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence à Sciences Po Paris en développement durable. Vous êtes par ailleurs l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Allo Houston, qui est paru aux éditions Max Milo. Et puis avec nous par téléphone, une troisième invitée, Annabella Rosenberg, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes conseillère pour l'environnement et le climat à la CSI, la Confédération syndicale internationale. Annabella Rosenberg, première question pour vous. Les États-Unis de Donald Trump peuvent-ils, selon vous, légalement se retirer du traité de Paris conclu l'année dernière lors de la COP21?
Bon, il est évident qu'ils peuvent se retirer de l'accord sans être une experte avocate. Tout le monde s'accorde. Il y a certainement débat sur la temporalité, en fait, hein, combien de temps ils peuvent rester dans l'accord. Mais je pense que ce qui est fondamental, c'est la volonté d'un État de sortir, certainement nuit à la crédibilité, en fait, de cet accord et à la mobilisation que les autres États pourraient faire. Il faut savoir que, bon, les États-Unis restent les deuxièmes pays les plus émetteurs et, du coup, leur absence dans l'accord de Paris et dans l'application de cet accord nuit gravement au progrès que nous pourrons faire sur les climats. Donc, ils peuvent se retirer, c'est des États souverains, tous les États peuvent se retirer de l'accord. Après, même s'il y a débat sur est-ce que c'est dans un an, dans trois ans, c'est quand même terrible, en fait. Et du coup, je pense que nous tous, dans les mouvements climat, nous sommes vraiment, nous regardons cela avec...
Oui, on a parlé même de séismes hein, dans les réactions qui peuvent y avoir en ce moment, notamment à Marrakech. Juste sur ce point, parce que c'est pas ce que dit Ségolène Royal, hein. Michel Colombier, pour vous, c'est clair, ce fameux article 28 dans le traité qui a été conclu, il permet à un État de sortir, de se retirer de ses engagements.
Oui, de toute façon, de tout accord international sur l'environnement, un État peut se retirer. Donc ça, c'est une évidence. Je pense qu'il y a... une ambiguïté sur la question. Trump avait dit qu'il allait dénoncer l'accord de Paris, enfin qu'il annulerait l'accord de Paris. Ça, c'est différent. Il n'a pas la possibilité d'annuler l'accord. Il a la possibilité de s'en retirer. Moi, je pense que c'est une évidence. C'est-à-dire que Trump peut faire beaucoup de mal et au vu du personnage, de ses déclarations et notamment sur le climat, on peut s'y attendre. Donc, il faut sûrement s'attendre au pire. Après, je pense que le débat, il est surtout de savoir quels sont les éléments de résistance que les gens qui sont à la fois dans l'accord et les gens qui veulent une avancée des politiques et des luttes sur la question climatique. Qu'est-ce qu'on a entre les mains aujourd'hui face à Trump? Je crois que c'est vraiment ça la bonne question. C'est pas d'épiloguer sur le fait que Trump va être dangereux. C'est une évidence. Donc je crois que la question, c'est qu'est-ce que...
Alors c'est une évidence, sauf que on l'a beaucoup vu en différentes matières. Donald Trump a un peu dit tout et son contraire sur certains engagements. Alors peut-être là-dessus, Henry Lenz, est-ce que c'est un vrai climato-sceptique? Est-ce qu'il représente une vraie, un vrai courant de pensée aux États-Unis en la matière?
Il représente tout à fait, quand il s'exprime climato-sceptique, tout un courant de pensée aux États-Unis. Ça, c'est d'ailleurs peut-être là où est le vrai danger en ce qui concerne ce qu'il va faire sur le climat. Parce qu'effectivement, Donald Trump est le plus grand opportuniste de l'histoire politique américaine récente. Il a dit ce que voulaient entendre les Américains, il a senti une colère, donc il a utilisé beaucoup de propositions qui n'étaient pas nécessairement celles qu'il aurait proposées en off avant qu'il soit un responsable politique. Sur le climat, il est climato-sceptique dans ses positions. C'est tout ce qu'il faut savoir en ce qui concerne ensuite se mobiliser derrière et faire comme ce que disait Michel, de voir ce que nous avons pour lutter contre. Maintenant, il y a beaucoup d'Américains qui ne croient pas encore en un changement climatique anthropique dû aux activités humaines, surtout dans l'électorat républicain, encore plus dans l'électorat de la branche extrême droite du Parti républicain, dans le Tea Party. C'est l'ordre de 1 Américain sur 5 quand on va dans ces branches-là qui pensent que le changement climatique est dû aux activités humaines. Et ce que Donald Trump a fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a relié l'économie, la compétitivité à la lutte contre le changement climatique dans le mauvais sens de l'histoire. Il a montré que l'environnement, c'est encore une fois une nuisance à la compétitivité économique. Il a dit qu'il veut enlever toute régulation environnementale pour libérer l'économie américaine. Donc il revient en arrière sur tout un travail qui a été fait pour montrer que protéger l'environnement, c'est quelque chose qui
c'est
est plutôt une opportunité.
Ouais.
Oui. Et la dernière chose que j'aime dire, c'est comme si c'est un antipatriotisme de vouloir protéger l'environnement, parce que ça sous-entend remettre en question le mode de vie américain. Et ça, c'est une position qui est un petit peu implicite dans le Parti républicain depuis très longtemps.
Alors ça, c'est intéressant, Michel Colombier, parce que vous parliez tout à l'heure des éléments de résistance. Il y a aussi celui de la mobilisation d'une société civile, d'une population. On a vu à Paris, c'était l'un des éléments qu'on mettait très en avant. Il faut mobiliser les gens. Si la société américaine est très partagée sur le sujet, c'est un élément de résistance en moins, peut-être.
Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Henri. Il y a une grande partie de la société américaine qui est climato-sceptique et qui, en tout cas, aime entendre ce que Donald Trump a dit sur le fait que l'environnement est un problème. Cela dit, Trump est allé très loin sur cette question-là et, à force de tirer absolument sur tout, je pense qu'il peut aussi se tirer une balle dans le pied, y compris sur les promesses qu'il a pu faire dans ce domaine-là. Donc ça, c'est le premier domaine. C'est-à-dire, la première question, c'est qu'il a promis un certain nombre de choses qui sont contradictoires, y compris sur les questions environnementales. Par exemple, il dit « je relance le charbon », mais en même temps, il soutient à fond la question des gaz de schiste. Et aujourd'hui, le gaz de schiste et le charbon, c'est un combat aux États-Unis. C'est là-dessus que se joue une partie de la réduction des émissions, pas suffisante, mais c'est là-dessus qu'elle se joue en partie. Et donc, bon courage pour relancer le charbon, ça ne va pas être aisé. Après, le deuxième point sur lequel, quand même, je pense, il va se passer quelque chose, et on a l'expérience de l'élection de Bush qui avait commencé plus mollement, certes, mais qui avait commencé en disant aussi le changement climatique n'est pas un problème. Il n'a pas tenu très longtemps sur ce thème-là. Mais sous la présidence Bush, on a vu l'émergence de quelque chose qu'on connaît bien maintenant aux États-Unis. C'est un pays fédéral. Et dans ce pays fédéral, on a des États qui sont puissants, qui ont des législations, qui ont des capacités budgétaires. Certains de ces États ont pris déjà des engagements très forts sur les questions climatiques, y compris des États républicains. Donc ça, c'est un pouvoir politique avec lequel il va falloir compter et qui n'est pas désarmé complètement face au fédéral. Et la troisième question, je pense, mais on va en discuter après, c'est qu'on a un accord avec Paris qui est construit de façon très différente de l'accord qu'on avait à Kyoto quand Bush a été élu. Et autant Kyoto, finalement, perdait toute sa consistance avec le retrait des États-Unis, autant l'accord de Paris nous permet d'une certaine façon de conserver une certaine Amérique à l'intérieur de l'accord. Donc certes, l'accord politiquement va être fragilisé, mais il va falloir se battre à l'intérieur de cet accord avec ces outils-là, et je crois que c'est ce qu'on peut faire aujourd'hui.
Alors je voudrais faire réagir là-dessus Annabella Rosenberg. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de nous dire Michel Colombier? Est-ce que vous considérez que dans cet accord de Paris, il y a effectivement des garanties qui permettent de le sauver, même si les États-Unis se retiraient?
Bon, ce que je comprends de ce que Michel dit, c'est pas tant qu'il y a des garanties, mais il y a des outils. Et c'est certainement ces outils-là qu'il faut faire l'évier, en fait, pour s'en servir et faire des notre mieux.
Alors, quels outils vous voulez-vous vous servir?
Je pense que certainement l'idée de travailler avec les acteurs non étatiques qui sont vraiment ambitieusement engagés sur la réduction des gaz à effet de serre, là, on a un outil. Je pense qu'il y a aussi un certain nombre d'entreprises, des bonnes volontés, en fait, qui veulent aller de l'avant. Il y a aussi beaucoup de greenwashing, mais il y en a quelques-unes qui veulent aller vers la voie d'une transition. Je pense que la société civile, je pense aux syndicats, aux ONG, aux mouvements dans les terrains, veulent aller de l'avant et ils ont peut-être un peu plus de place dans l'accord. Il faut Par contre, il faut aussi se dire que cet accord, c'est peut-être la première cible, en fait, de Trump, parce que ça ne lui coûte rien en interne, et il le gagne un peu, de sortir du système onusien le plus possible. Et c'est pas juste le climat, c'est quand même quelqu'un qui ne croit pas à la gouvernance internationale. Donc, finalement, le coût politique d'une sortie, d'un éloignement, l'arrange, et... En fait, je suis peut-être un petit peu plus partagée sur les États américains. Certes, il y a un certain nombre qui sont progressistes, mais on a aussi plus de la moitié qui ont une majorité absolue républicaine qui pourrait aussi surfer sur cette vague, sinon pas du climato-scepticisme, en tout cas des baisses de l'ambition.
Alors, Henri Landès a envie de réagir à ce que vous êtes en train de dire. Je vous voyais faire non de la tête. Alors, quelle est votre position par rapport à ce qui vient d'être exprimé ?
Non, je suis d'accord sur la position de Trump sur la gouvernance internationale, et il a une position qui est plutôt protectionniste, isolationniste, remettre en question un système onusien de manière générale. Je me demande s'il va
il
se
a
dire...
parlé de l'OTAN aussi un peu dans
de
cette
de l'OTAN aussi,
veine.
Oui, oui, que les États européens doivent payer leur dues, comme on dit en anglais, pour l'OTAN, et que ce ne soit pas juste les Américains qui payent. Disons que Donald Trump va peut-être aussi se focaliser sur ce qui va créer le plus d'emplois, et il voit peut-être l'oléoduc XL qui a été bloqué par Barack Obama comme une priorité plus haute que l'accord de Paris. Je ne sais pas si les Américains vont être très convaincus politiquement qu'ils gagnent quand on annule l'accord de Paris. Je crois que ce qu'ils veulent voir, c'est qu'ils relancent un petit peu l'industrie de l'énergie fossile, surtout le charbon, et que donc, je ne sais pas s'il va se casser la tête avec... une question qui est un peu juridique, mais aussi politique, qui est de se retirer de l'accord de Paris, même si je pense que s'il peut tenir cette promesse-là, il ferait. Mais je vois plus le danger de ce qu'il ferait concrètement sur le terrain. Et je suis d'accord avec
mais
tous les outils.
Parce que certains disent aussi qu'en fait, l'accord de Paris n'est pas complètement contraignant. Alors, il faudra définir le mot contraignant.
Là,
et finalement, sans sortir de l'accord de Paris, il peut aussi juste ne pas respecter ses engagements. Michel Colombier.
Je pense que c'est une question qui est très intéressante parce que il y a un certain nombre de gens en Europe qui disent mais finalement cet accord il n'est pas contraignant donc on ne voit pas pourquoi on en sortirait. Donc en sortir c'est un acte politique. Donc ouais. C'est un acte politique qui a une valeur intérieure, évidemment, et c'est un acte politique qui a un effet sur l'accord lui-même qui est un effet délétère. Donc c'est bien pour ça qu'il va falloir se mobiliser pour limiter l'effet délétère sur l'accord de Paris. Mais de fait, il pourrait très bien rester dedans et ne pas l'appliquer, il ne se passerait rien. Bon. Pourquoi il a besoin de le faire? Il a besoin de le faire parce que Obama, contrairement à nous Français, contrairement à nous Européens, s'est appuyé sur l'accord de Paris dans son combat pour essayer d'armer l'EPA et d'essayer de lancer une politique climatique par la voie législative, par la voie, pardon, réglementaire aux États-Unis, puisqu'il ne pouvait pas le faire par le Congrès. Donc Obama ayant mis en valeur cet accord en disant « Regardez, nous sommes engagés par cet accord, nous devons avancer, etc. », lui a donné un poids politique et du coup il y a une valeur pour Trump d'en sortir. Je voulais juste commenter la question aussi des États, parce que tout à fait d'accord, j'ai pas dit tous les États unanimement vont se lancer dans, etc. Il y a un certain nombre d'États, il y a un certain nombre de grandes villes qui sont engagées dans des politiques.
Lesquelles ?
Il y a un certain nombre... les États, on a la Californie, on a des États de la côte Est, les grandes villes, on a New York, on a San Francisco, on a Chicago, on a Boston.
Il y a des petites villes même qui sont face à 100% renouvelables
dont on parle
dans
pas.
Le Nord-Est.
Bon. Ouais. En face de ça, il y a évidemment des États et des villes qui s'en moquent et certains qui veulent relancer le charbon à l'intérieur. Bush leur a, j'insiste avec Bush. Trump leur a promis...
Vous ne voulez pas y croire.
Il leur a promis qu'il relancerait le charbon. Donc, ce que je pense, c'est qu'on va assister à une très forte divergence, évidemment. Sans unité fédérale, sans ligne directrice, et là, l'EPA va souffrir, c'est évident. Donc, sans ligne directrice, on va assister à une très grande divergence. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu un peu par le passé. Et ces divergences entraînent de grandes difficultés économiques. On disait tout à l'heure, il y a aussi l'économie dans le jeu. On a vu par le passé les divergences sur les politiques automobiles a mené Détroit, d'un côté, à attaquer la Californie pour essayer de limiter l'ambition de la Californie sur la question des émissions de la consommation des automobiles, mais en même temps, Détroit se retournait vers le pouvoir fédéral en disant « Écoutez, nous avons besoin d'une ligne dans ce pays. Sinon, l'industrie automobile ne sait plus si elle doit fabriquer des voitures pour des Texans, des voitures pour des Californiens. Et dans quelques années, on ne vendra plus que des voitures japonaises.
Alors justement, sur cette notion un peu de pragmatisme économique, pardon, avant de redonner la parole à Annabella Rosenberg sur l'effet domino, je voulais quand même vous poser cette question, Henri Landès. Donald Trump, c'est quand même un businessman. Finalement, l'économie verte, c'est aussi aujourd'hui un énorme levier de croissance. Est-ce que là-dessus, il peut pas finalement changer d'avis, puisque ce serait pas la première fois, on l'a vu en quelques jours.
Je pense qu'il est moins convaincu par les énergies renouvelables. Il a parlé des éoliennes comme étant extrêmement moches et en plus c'est mauvais pour la santé.
Mais
je
ça,
pense
c'était en campagne aujourd'hui qu'il va avoir des lobbies verts en face de lui. Est-ce qu'il va pas les écouter aussi s'ils leur disent, mais là, il y a de la croissance possible?
On se positionne sur ce qu'il dit aujourd'hui sur ces énergies. Je pense que il y a une contradiction dans ce qu'il veut faire, parce qu'il veut absolument relancer le charbon, alors que le charbon, il y a donc cette concurrence avec les gaz de schiste, on en a parlé. Il va certainement investir dans les énergies renouvelables, surtout le solaire, mais pas du tout avec la même ampleur que Barack Obama a fait, avec ses plusieurs milliards de dollars investis dans les énergies renouvelables. Donald Trump va vouloir construire des choses. Il adore construire, depuis qu'il est dans l'immobilier, c'est ce qu'il aime faire, que ce soit un mur d'ailleurs, ou que ce soit des grandes infrastructures. D'ailleurs, il a une approche keynésienne à l'économie. Lui, il veut faire de l'interventionnisme beaucoup plus que les conservateurs et le Parti républicain le souhaitent, d'ailleurs. Est-ce qu'ils vont le bloquer là-dessus? Je ne sais pas. Mais il a envie de construire des choses. Moi, je vois plus une ancienne économie dans la tête de Donald Trump. Et effectivement, les entreprises vont vouloir avoir des signaux clairs. Donc, est-ce qu'il va pouvoir mettre en œuvre sa politique économique, recréer de l'emploi avec l'ancienne économie, alors que le monde s'est décidé sur l'avenir, c'est la transition vers les énergies renouvelables, et on voit la baisse des coûts. Je m'inquiète un petit peu pour son programme économique s'il ne veut pas s'éclairer un petit peu.
Annabella Rosenberg, est-ce que vous craignez un possible effet domino si d'aventure les États-Unis se désengageaient, alors en sortant de l'accord ou juste en ne le respectant pas?
Il est évident que ça peut avoir des retombées, en fait, des conséquences très très négatives. Mais juste sur cette question des réalismes économiques, il est important de voir que le fossile, en fait, l'économie fossile, elle est très bien organisée. Elle a des lobbies, elle est bien structurée, et d'ailleurs, ils arrivent parfois à embarquer avec eux, même des travailleurs qui ne voient pas trop où va leur pays. Ce n'est pas du tout le cas des énergies renouvelables ou des filières vertes, et même, je dirais, de toute cette économie qui profite de l'ambition climatique. Et c'est sur ça, en fait, où il peut porter les plus gros coûts, non seulement aux États-Unis, mais un peu partout dans le monde. Je pense que ce qui est aussi terrible, c'est qu'il ne faut pas oublier, Trump est aussi quelqu'un qui déteste le mouvement syndical profondément, et ça a une influence aussi sur toutes les politiques sociales qui allaient être lancées par le gouvernement Obama pour soutenir les bassins miniers. Parce que justement, il faut sortir de l'idée qu'en Virginie occidentale et ailleurs, on peut relancer cette économie. Il faut juste aider ces communautés à trouver des formes alternatives de vie économique, et Trump va détruire ça parce qu'il ne veut pas du tout revoir ces communautés. Il va juste aider ses amis des entreprises du charbon, et j'ai rejoint Michel, en fait, il se rendra compte très vite qu'aujourd'hui, ça ne génère pas des emplois. Il faut savoir que la mécanisation du charbon fait qu'aujourd'hui, il y a très très peu d'emplois derrière. C'est plus des intérêts économiques qui sont là. Donc, il y a certains risques d'effets, je ne sais pas si j'appellerais d'effets dominos, mais certainement un effet qui va couper court déjà à une économie certes prospère, mais encore très très petite, assez fragile, qui est l'économie alternative qu'on veut construire.
Henri Landès.
Oui, je voulais dire que sa position sur le changement climatique pourrait créer une opportunité vraiment manquée. C'est-à-dire qu'il y avait, comme on vient d'entendre, une sorte d'élan positif dans justement l'économie verte et le fait que les États-Unis pourraient devenir un leader, même si c'est de la rhétorique politique. Mais Barack Obama avait vraiment s'était focalisé sur les États-Unis pourraient venir sauver le monde presque et être
un
leader.
Oui, il avait été très moteur à la COP21. Sans l'administration américaine, on n'aurait pas autant avancé.
Mais ce qu'on réalise, c'est à quel point c'était fragile aussi, ce sentiment au sein de la population américaine. Moi, je vois les discussions même sur les réseaux sociaux entre jeunes. C'est pas encore la question fondamentale qui énerve les Américains qui ne voulaient pas voir Trump au pouvoir. C'est plutôt les questions de droits des femmes, droits des LGBT, des droits des immigrés, ce qui est aussi important. Sauf que la question environnementale, elle a toujours été difficilement traitée aux États-Unis, et il y a une énorme instrumentalisation de cette question-là.
Donc rien n'est acquis,
surtout
en fait
au niveau national.
Et non. Michel Colombier, juste, il nous reste quelques secondes, mais vous avez peur d'une possible contre-révolution anti-verte, enfin, je ne sais pas comment dire. d'un nouveau mouvement dans l'autre sens.
Moi, je pense qu'il y a une chose dont on n'a pas beaucoup parlé là, mais qui va être très importante aux États-Unis, mais Henri connaît certainement ça mieux que moi. C'est au-delà de la question du climat, c'est vraiment les positions de Trump globalement par rapport à la science. Sa position d'abord par rapport à des administrations indépendantes comme l'EPA, etc., mais qui justement s'appuient, tiennent leur pouvoir d'une relation particulière à la science. Et ça, je pense que le vrai danger, il est là aussi.
Et ce sera l'objet d'un autre débat. Merci beaucoup à tous les trois, Michel Colombier, Henri Landès, Annabella Rosenberg. Merci aussi à Valentin Vaner et à Florence Pons. On se retrouve demain pour un nouveau débat.